mais on commence tout de suite avec les actualités de la recherche, vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Professeur Bruno Dubois, fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer, merci de nous dire où nous en sommes par rapport à tous ces espoirs de la recherche que vous soutenez.
Merci beaucoup, merci Agnès, merci à tous d'être là. Je suis très heureux d'être là, je retrouve d'anciens élèves, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver à Poitiers, qui est proche de l'endroit où j'ai toujours vécu. Voilà. Simplement pour vous parler de l'AFRA rapidement, vous vous rappelez que, on vous l'a déjà dit, c'est une fondation qui a pour but de soutenir la recherche, les connaissances en maladie, le diagnostic précoce et maladies apparentées, bien sûr, mais avec une stratégie, je veux que vous le sachiez, parce que c'est assez original, je pense que c'est assez unique pour une structure de recherche en France, qui soutient la recherche en France, c'est assez unique. C'est-à-dire que nous avons un comité scientifique international. Ce sont des étrangers qui jugent des projets qui sont proposés à notre appel d'offres. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune espèce de conflit d'intérêts. Moi-même, je ne participe pas du tout à ce comité scientifique. Je l'ai structuré, mais ce sont des collègues étrangers et qui ne sont absolument pas impliqués dans les recherches qui sont éventuellement soutenues. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Simplement pour vous donner un éventail des projets que nous soutenons, vous voyez, c'est très varié, puisqu'on s'intéresse bien sûr à la fameuse protéine amyloïde, on aura l'occasion d'en parler, mais aussi, par exemple, on s'intéresse au rapport entre maladie d'Alzheimer et les travailleurs agricoles. Voilà, est-ce qu'il y a plus de risques, ce qui pose des problèmes, la question des pesticides, on en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, le problème des pesticides, notamment dans la région, ici, à La Rochelle, vous le savez. Peut-on doser les nouveaux biomarqueurs dans le sang? On va en parler. Pourquoi les femmes sont-elles plus souvent atteintes de la maladie d'Alzheimer? Vous voyez, c'est des projets qui sont très variés, et tout ça, ce sont des projets qui sont soutenus par la Fondation pour Recherche Alzheimer, la FRA. Voilà l'intérêt du LCR, ou éventuellement travailler aussi sur des médicaments à partir de molécules déjà existantes. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce que nous soutenons, et n'ayez pas de réserve à parler de cette FRA et de cette fondation qui soutient de façon très efficace la recherche en France. Voilà. Alors, la maladie d'Alzheimer, bon, j'ai commis il y a quelques années un livre qui s'appelait « La maladie d'Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle ». Et c'est vrai que c'est la maladie du siècle pour une seule et simple raison, c'est que nous vieillissons tous, et heureusement, et c'est une chance, et merci à la médecine qui a fait d'énormes progrès et qui nous permet maintenant, si vous voulez, qu'on a évité tous les problèmes liés aux maladies des âges précédents, l'accident de voiture quand on revient de boîte de nuit, l'infarctus du myocarde, enfin, un certain nombre de risques qui ont été contrôlés. Et bien maintenant, nous arrivons tous en bonne santé à l'âge où, malheureusement, les maladies dégénératives du cerveau, et en particulier la maladie d'Alzheimer, devient naturellement fréquente. Ce sont des maladies qui sont pas dues à l'âge, mais qui sont liées à l'âge. Donc, l'espérance de vie, pour vous donner une idée, et quand même, il faut quand même le rappeler, c'est que cette espérance de vie au début du 19e siècle était de 40 ans. Quand un enfant naissait, son espérance de vie était de 40 ans. Bon, il y avait d'autres facteurs, il y avait la guerre, il y avait pas mal de choses, mais enfin, c'est quand même l'espérance de vie très limitée. Mais aujourd'hui, si vous avez une petite fille qui naît aujourd'hui, eh bien, son espérance de vie va être de 90 ans. C'est quand même remarquable. Mais 90 ans, il faut quand même rappeler que la maladie d'Alzheimer touche 40% des gens âgés de 90 ans. Donc ça veut dire qu'une petite fille qui naît aujourd'hui a 4 chances sur 10 de mourir avec la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça c'est la réalité face à laquelle nous sommes tous confrontés. Donc je passe après sur des évidences que vous connaissez pour vous dire qu'il faut travailler, il faut mieux connaître cette maladie. Et je voudrais vous apprendre qu'on a finalement beaucoup progressé sur la connaissance de cette maladie. On a beaucoup progressé parce que d'abord, l'histoire naturelle de la maladie est maintenant connue. On connaît l'histoire de cette maladie. C'est pas n'importe quoi, la maladie d'Alzheimer. Elle commence ici, vous voyez, elle commence, je ne sais pas si on a un petit marqueur, oui. Elle commence, vous voyez, au niveau de cette structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est un peu, si vous voulez, le péage, ou tout au moins la porte qui ouvre le cerveau et qui va nous permettre de transformer le présent en souvenir. Si la porte est fermée, on ne pourra pas transformer le présent en souvenir. Donc on participe au présent, mais on ne peut pas le rentrer dans la banque du cerveau. parce que l'hippocampe est cassé. Et dans la maladie d'Alzheimer, c'est ce qui se passe. L'hippocampe est cassé précocement, donc ce que les gens perçoivent ne sera pas transformé en trace de mémoire. C'est tout, c'est ça la maladie d'Alzheimer. C'est cette difficulté à transformer un présent en passé. Alors, ça va rester longtemps, vous voyez, comme une atteinte isolée de l'hippocampe, et puis petit à petit, ça va diffuser, les lésions vont diffuser vers d'autres régions du cerveau pour toucher l'ensemble du cerveau, raison pour laquelle on a proposé de dissocier et de distinguer deux phases dans cette maladie. La première phase, c'est cette phase où il n'y a que l'atteinte de l'hippocampe. Donc, il va y avoir longtemps une seule atteinte de la mémoire. Oh là, il y a un fourgon entier, là.
Avancez, installez-vous.
Donc,
on attaque.
Une première phase dans laquelle il va y avoir, vous voyez, une atteinte relativement isolée de la mémoire. Et c'est ce qu'on a appelé la phase prodromale, la phase des prodromes. Ce n'est pas encore la démence, si vous voulez, à proprement parler. C'est une phase débutante avec des troubles de mémoire. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, lié à la diffusion des lésions, on va avoir d'autres symptômes qui vont apparaître. On aura des troubles du jugement, des troubles du langage, des troubles des gestes programmés, des troubles de la reconnaissance des visages, des objets, des troubles du comportement, du caractère, etc. Et tout ça, ça va enrichir, je dirais, le tableau clinique. Et ces patients vont devenir de plus en plus dépendants parce qu'ils ne pourront pas réaliser eux-mêmes les activités de la vie quotidienne. Et c'est cette perte d'autonomie, cette dépendance qui détermine en médecine ce qu'on appelle la démence. C'est un terme malheureux. C'est pas du tout dire que les gens sont fous ou qu'ils perdent la tête. C'est simplement qu'ils ne sont plus autonomes. Donc c'est la perte de l'autonomie qui détermine la démence. Donc il y a finalement, de façon un peu schématique, vous voyez, deux phases. Et ça, c'est ce que nous avons découvert au cours de ces dernières années. Il y a deux phases dans la maladie. Une phase relativement silencieuse qui se limite à des troubles de mémoire. Puis après, il y a la grande phase de perte d'autonomie. Et c'est là que les patients ont besoin d'être aidés. Alors quand je raconte ça, quand je dis ça, évidemment, les gens sont vraiment inquiets parce que nous avons tous des raisons de nous plaindre de notre mémoire. Et la question, c'est est-ce que cette plainte de mémoire est déjà le signe qu'on est dans cette phase prodromale de la maladie d'Alzheimer? Et ça, c'est une vraie question. Et là aussi, on a progressé là-dessus. Et on peut répondre à cette question. J'oublie tout, est-ce grave? Et j'ai l'habitude, quand je fais des conférences comme ça, grand public, de poser la question, je vous la pose, que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Personne ne lève le doigt. Tout le monde se plaint de sa mémoire. Donc tout le monde se pose la question. J'oublie, est-ce grave? Alors, un élément de réponse qui est un élément un peu grossier, mais qui, va voir, est assez intéressant, est lié à une petite étude que j'avais faite il y a quelques années avec avec le docteur Agnès Michon. Je ne sais pas si tu l'as connu. Tu n'as pas connu, toi. Non. Voilà, Agnès Michon. Et donc, on avait fait ce travail qui est bête comme chou. On avait simplement étudié la plainte de mémoire chez des gens, mais dans deux populations différentes. Vous voyez, regardons la ligne du haut. La ligne du haut, ce sont des sujets, vous voyez, qui ont une dépression. Vous voyez, ils ont une dépression. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que leur performance de mémoire est tout à fait bonne. On leur faisait passer à ce qu'on appelle un MMS, une sorte de thermomètre de la mémoire et de l'intelligence, enfin, et du fonctionnement cognitif, et ils avaient 29 sur 30. On a tous 29 sur 30 dans cette salle, 29 ou 30, ou 28, 29, vous voyez, tous à peu près dans ces eaux-là. Eh bien, ces sujets qui se plaignent beaucoup, vous voyez, ils sont jusqu'à 160 en niveau de plainte, vous voyez, en global, en plein de choses, c'est une plainte de mémoire. Ils ont une énorme plainte, et ils ont des performances normales. Et puis au-dessous, vous voyez, il y a une autre ligne. Elle est intéressante, cette ligne, parce que là, ce sont des patients qui ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer et qui, justement, eux, ont des performances qui sont altérées. Ils ont un MMS à 20 en moyenne. Donc le paradoxe, et c'est ce qu'il m'avait fait dire à l'époque, cette phrase qui était peut-être un peu excessive, mais plus on se plaint de la mémoire, moins on a de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et généralement, j'ai mon petit effet. Chaque fois que je sors cette phrase, il y a de la détente dans l'atmosphère. Mais c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même vrai. Le fait de se plaindre est un phénomène banal. C'est un phénomène qui est lié à l'âge, qui est lié aux troubles de l'attention et qui n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Car, je vous ai expliqué, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas un trouble de l'attention, c'est un trouble de la mise en mémoire. Et vous, ce dont vous vous plaignez, c'est de ne pas vous rappeler des choses banales, c'est-à-dire l'emplacement des lunettes, l'emplacement du journal, l'emplacement des clés, etc. Parce qu'on ne fait pas attention aux choses banales. Mais en revanche, les choses importantes, on s'en rappelle, parce qu'à ce moment-là, on ouvre notre hippocampe, ça rentre dans la banque et ça reste dans la banque. Donc vous voyez, la différence entre la plainte banale, qui renvoie à des troubles de l'attention, et la plainte sérieuse, qui renvoie à une incapacité à transformer le présent en souvenir. Alors, là, ça, c'est la première notion fondamentale. Deuxième notion fondamentale, c'est que quand Alzheimer a décrit sa maladie, il a décrit des lésions, mais les lésions, il les a décrites dans le cerveau des patients. Et pendant très longtemps, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on ne pouvait pas affirmer le diagnostic parce qu'on ne pouvait pas accéder aux lésions qu'on ne pouvait accéder que post-mortem. Donc, du vivant des patients, on ne pouvait pas y accéder. Ça a beaucoup changé parce que maintenant, on a ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est-à-dire, on a la possibilité d'avoir une sorte de signature de la présence des lésions dans le cerveau. On peut accéder à la connaissance des lésions des patients de plusieurs façons. D'abord, par ce qu'on appelle un PET scan. Bon, je passe sur la technique, mais si vous voulez, on arrive à visualiser les lésions, comme vous voyez ici, là, les lésions dans le cerveau des patients. Ici, voilà, j'ai tout éteint. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez, vous voyez les lésions rouges, là, c'est un patient qui est très malade. Vous voyez. Bon, on peut aussi les visualiser simplement, très simplement, par une ponction lombaire. C'est un geste tout à fait banal. Ça fait peur quand on voit la photo. En réalité, ça ne fait rien. D'abord, vous ne le voyez pas, parce que c'est dans votre dos. Et deuxièmement, c'est un geste qui est tout à fait banal. On a maintenant des aiguilles très fines. Et on en fait 500 par an à la salpêtrière. C'est un geste extrêmement banal et très simple. Et on retire du liquide. Et dans ce liquide, on retrouve les lésions qu'il y a dans le cerveau. Et on peut, de cette façon-là, travailler sur la pathologie réelle, et on peut affirmer le diagnostic. On peut faire aussi de la recherche. Et alors là, c'est le plus extraordinaire, c'est que non seulement on peut le travailler dans le liquide céphalo-rachidien, on peut maintenant repérer les lésions dans le sang. Alors, ça reste de la recherche, on ne le fait pas en pratique clinique, il faudra manipuler ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Vous imaginez que vous n'allez pas rentrer dans le laboratoire, on vous fait faire la prise de sang et que le soir, on vous dira, vous avez la maladie d'Alzheimer. Non, ça va être très, très contrôlé. D'abord, ce n'est pas la maladie qu'on diagnostique, ce sont des lésions. D'accord ? Et on va parler de ça. Le fait d'avoir des lésions ne veut pas dire formellement qu'on a la maladie. Donc, je vais vous expliquer ça, c'est compliqué. Donc, mais sachez-le que ces lésions peuvent être maintenant accédées, peuvent être maintenant découvertes par des techniques très simples, peut-être même une prise de sang. Alors, la troisième chose que l'on sait, et ça c'est extrêmement important pour l'avenir de mon topo et l'avenir de la recherche, c'est que on a repéré que ces mêmes marqueurs dont je vous ai parlé, ces biomarqueurs, cette signature biologique de la maladie, étaient déjà présentes avant les symptômes. Donc, les lésions de la maladie précèdent la survenue des symptômes. Je vous le démontre ici. Vous voyez, par exemple, là, c'est le début des symptômes, ici, vous voyez, ici. Eh bien, 10 à 15 ans avant, il y a déjà des changements dans le liquide céphalo-rachidien ou dans le PET scan ou peut-être même dans le sang. Voilà. Donc, ça veut dire que les lésions précèdent. Alors, si les lésions précèdent, allons jusqu'au bout, ça veut dire que il y a peut-être avant la phase prodromale dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a donc peut-être une phase préclinique, pré-symptomatique, avant les symptômes. D'accord ? Et donc, si on va jusqu'au bout de la démarche, on pourrait peut-être, de cette façon-là, identifier des gens qui sont à risque de développer la maladie. On va voir les problèmes que ça pose. Mais le premier problème que ça pose, c'est est-ce que le fait d'avoir des lésions déterminent formellement qu'on va développer la maladie. C'est une question fondamentale. Parce que on ne va pas s'intéresser à ces gens si on n'est pas certain qu'ils vont développer la maladie. Vous voyez bien. Raison pour laquelle on a fait un travail à la Salpêtrière qui vise à suivre ces gens âgés qui sont biomarqueurs positifs. Comprenez ce que ça veut dire. C'est qu'ils ont les biomarqueurs de la maladie, mais ils sont normaux. Et on a comme ça suivi 320 sujets 320 sujets, qui étaient quand même âgés de 76 ans. Et quand je vous ai expliqué que la maladie est d'autant plus fréquente que les gens sont âgés. 76 ans, et qui étaient, pour certains d'entre eux, amyloïdes positifs, qui avaient les lésions amyloïdes dans leur cerveau. On les a suivis pendant 7 ans. 7 ans après, ils ont 83 ans. Donc la question qui se pose, combien de ces 88 sujets ont développé la maladie d'Alzheimer 7 ans après ?
De ces 320 sujets.
De ces 88 positifs.
Positifs.
De 88 positifs. Ceux qui n'ont pas les lésions, alors là, on est sûr qu'ils ne la développeront pas. La question est de savoir si ceux qui ont les lésions vont tous développer la maladie. Donc sur les 88, combien ont développé la maladie ? Voilà la réponse. Seuls 16 développent la maladie. Vous voyez ? Alors, il y a des biais évidents. C'est qu'on a recruté des gens d'assez haut niveau pour participer à ce genre d'études. C'est des gens qui sont intéressés, c'est des retraités actifs qui veulent savoir, qui veulent contribuer. Ils ont un niveau, qu'on appelle un niveau d'éducation élevé. Et on sait que le niveau d'éducation retarde l'entrée dans la maladie. Donc il y a des biais. Mais quand même, ce point, ce résultat est extrêmement intéressant. Ça veut dire que le fait d'avoir des lésions n'est pas suffisant pour déterminer formellement la survenue de la maladie. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des mécanismes de compensation. Le cerveau est malin. Il est capable de résister, de lutter contre les lésions. Et je vous montre un exemple. Je ne dis pas que cet exemple est le seul, et je ne vous dis pas qu'il soit forcément pertinent. Mais on a été intéressé d'observer le fait que je vais vous décrire. Parce que je pense que c'est un fait qui nous explique quelque chose. Vous voyez, on a fait des électroencéphalogrammes, vous savez, on a mesuré l'activité électrique du cerveau de ces sujets, on leur met un casque, et puis voilà, un électroencéphalogramme, vous en avez peut-être passé, c'est tout à fait banal. Et vous voyez, à différents temps du suivi, vous avez en haut l'électroencéphalogramme des 320 sujets que l'on a suivis et qui étaient sans lésion. Ils n'ont pas la lésion, ils n'ont pas de lésion, d'accord ? Très bien. Et vous voyez, ça ne change pas au cours du temps. Et au-dessous, vous avez l'électroencéphalogramme des 88 sujets qui sont des sujets qui sont amyloïdes positifs, mais qui sont restés stables, c'est-à-dire les 72 qui sont restés stables. D'accord ? Donc, dans les deux cas, les gens n'ont pas de troubles, les gens n'avaient pas de troubles cognitifs. Mais dans un cas, il n'y avait pas de lésion, dans l'autre cas, il y a des lésions. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le groupe de ceux qui ont les lésions, il y a des modifications de l'activité électrique, comme si, finalement, le cerveau était capable de modifier son fonctionnement, son fonctionnement pour lutter contre l'altération structurelle. En d'autres termes, ce sont des mécanismes de compensation qui permettent de maintenir le fonctionnement cognitif, alors même qu'il y a une altération de la structure, vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on a appelé le concept de résilience cérébrale. Le cerveau est capable de résilience, il est capable de s'adapter pour lutter contre les modifications de la structure. Voilà. Donc, fort de tout ce que je vous ai dit, nous sommes, nous, convaincus qu'il faudra dans l'avenir créer, à Poitiers, il va falloir que vous y réfléchissiez aussi, des centres de prévention du vieillissement cognitif. Alors, les arguments, vous les avez compris, c'est un problème de santé publique. Très bien. On a des marqueurs diagnostiques, je vous l'ai expliqué. La prévention marche. Il y a des données qui semblent indiquer qu'on peut retarder le déclin cognitif par un certain nombre d'interventions que je vous présenterai tout à l'heure, avec des résultats intéressants. Et surtout, les traitements arrivent. Alors, c'est la dernière partie de mon exposé, mais l'idée, si vous voulez, c'est celle-là, c'est qu'on va créer ces centres. Et l'avenir, ça pourrait être ce que je représente sur cette diapositive. Il va falloir que l'on suive des sujets comme vous, des sujets normaux, d'accord ? Bon, peut-être aussi des sujets au début de la maladie, qu'importe, mais on va suivre des cohortes de sujets, d'accord ? Et on va les caractériser, on va les étudier, ces cohortes, et on va faire des bases de données. Et à partir de ces bases de données, on va pouvoir dégager des algorithmes de prédiction par l'intelligence artificielle. On va pouvoir dire, voilà... Effectivement, il faut avoir les lésions, mais les lésions ne suffisent pas. Il faut, pour peu qu'on ait quelqu'un dans sa famille qui a été touché, qu'on ait certaines protéines sanguines, comme la polypoprotéine, qui soient positives, et pour peu que l'on ait, un autre marqueur, ce qu'on appelle PRS, qui soit positif, etc. Et puis que c'est une association de facteurs, une équation complexe à plusieurs inconnus qui va nous donner une idée du risque. D'accord ? Il y a des gens qui ont peu de risque et des gens qui auront du risque élevé, mais qui sont normaux. Et on aura ces centres dont je vous ai parlé, ces centres de prévention du déclin cognitif, où on verra des sujets qui viendront en disant, ben voilà, je voudrais que vous me disiez quel est mon risque. Et on calculera le risque en appliquant les algorithmes de prédiction qu'on aura élaborés dans nos centres de recherche. Et à partir de ça, on pourra faire des interventions ciblées, soit des interventions simples, parce que les sujets ont un faible risque, mais ils ont quelques facteurs de risque modifiables, et on leur proposera des interventions, soit ils sont déjà à très haut risque, et on leur proposera des médicaments. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les interventions, on le sait, voilà, il y a des facteurs qui semblent, je dirais, prévenir ou ralentir ou retarder l'entrée dans le vieillissement cognitif. Vous les connaissez, on en parle beaucoup. C'est surtout la prise en charge des facteurs de risque vasculaire. Je crois que tu vas en parler peut-être après un peu de tout ça. Oui, enfin bon, les facteurs de risque vasculaire, l'activité physique, la marche, les nutritions équilibrées, le bon état sensoriel, les activités stimulantes, l'interaction sociale, tout ça, on sait que ça retarde l'entrée dans le déclin cognitif. Bon, donc on pourra proposer, en fonction des facteurs de risque, ce type d'intervention. Mais surtout, on pourra peut-être proposer à ces sujets âgés normaux ces nouveaux médicaments. Alors, je passe rapidement sur l'immunothérapie anti-amyloïde, simplement pour vous dire que ça a été, comme disent les Beatles, « long and winding road », une route longue et sinueuse. Bon, parce qu'on est parti de ça, c'était cette diapositive de Schenck en 2000, qui montrait que quand on faisait une souris Alzheimer et qu'on traitait cette souris avec ce fameux vaccin dont on a parlé pendant longtemps, eh bien, vous voyez qu'il n'y avait plus de lésions. Vous voyez, ça, c'est la souris avec les lésions. Voilà. Et puis là, c'est après le traitement, il n'y a plus de lésions. Donc on s'est dit, ça y est, on va gagner. On a le traitement de la maladie. En réalité, ça a été très compliqué, très long. Je passe sur les détails. On est passé de l'immunothérapie active à l'immunothérapie passive. Il y a eu énormément d'échecs répétés, mais qui a permis quand même de mieux définir les populations grâce aux biomarqueurs et surtout d'avoir ce qu'on appelle des immunothérapies à forte liance, c'est-à-dire des immunothérapies effectives. Et voilà, elles sont efficaces, ces immunothérapies, sur les lésions. Regardez cette slide, elle est absolument étonnante. Ce sont les trois derniers médicaments qui ont été développés dans cette maladie. Ils s'appellent l'aducanumab en rouge, le lecanemab en bleu et le donanemab en vert. D'accord ? Vous avez en haut, vous voyez, la quantité de lésions dans le cerveau des sujets au début de l'étude. Vous voyez, ça, ce sont des malades. Hein. Ce sont des patients qui ont des lésions dans le cerveau. Très bien. Et là, vous avez le temps. Les études durent généralement un an et demi, 18 mois. Vous voyez que 18 mois après, la concentration des lésions dans le cerveau est passée de 100 à 20. 80% des lésions cérébrales ont disparu sous l'effet du traitement. C'est la réalité. On a aujourd'hui des médicaments qui détruisent 80% des lésions du cerveau des patients. Le problème, c'est que autant c'est très efficace sur les lésions, autant ça l'est peu sur les symptômes. On va en parler après. Je vais vous montrer les premiers résultats qui montrent que c'est aussi efficace, également efficace sur les symptômes, on va en parler. Mais restons sur l'idée que je vous ai dit juste avant, sur le concept. D'accord ? Si on peut repérer des gens normaux qui ont des lésions et que ces sujets sont à très haut risque de développer la maladie, et si on a des médicaments qui détruisent les lésions, eh bien, vous voyez, l'hypothèse, c'est de la science-fiction, mais l'hypothèse dans laquelle on se présente, c'est de se dire que, finalement, il faudrait, dans ces centres, repérer ces gens à risque, leur faire un petit coup, un petit shoot de ces médicaments, d'accord ? Parce qu'on va nettoyer les lésions et on retardera l'entrée dans la maladie. Parce qu'on sera probablement d'autant plus efficace qu'il n'y a pas déjà de symptômes et de lésions, de symptômes. Parce que, autant, et c'est ça ce que je voulais vous montrer, autant ces médicaments sont efficaces sur les lésions, autant ils le sont peu sur les symptômes. Et c'est toute la discussion aujourd'hui que vous avez dont vous avez probablement entendu parler si vous suivez la problématique de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a quand même des médicaments qui commencent à être efficaces. Voyez, vous avez en haut, vous avez deux courbes de droite, pour dire. Là, la première, celle-là, c'est celle de la maladie des patients qui ne sont pas traités, qui sont sous placebo. Et là, vous avez juste au-dessus celle des patients qui ont reçu le médicament. Donc, vous voyez que les courbes divergent. Alors ça, c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Les courbes divergent, c'est-à-dire qu'on ralentit l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a quand même, un gain, puisque vous voyez, regardez, ces sujets-là, ils sont, quand ils sont là, traités, ils sont au niveau de ceux-là 6 mois avant. Donc ça veut dire qu'ils ont gagné 6 mois de progression. C'est pas rien. Quand vous avez un cancer du pancréas et qu'on vous prolonge de 6 mois, vous êtes content. Quand vous avez une sclérose latérale, une maladie de Charcot, qu'on prolonge de 6 mois, vous êtes content. Là, on vous prolonge de 6 mois. On prolonge de plus, mais on maintient le niveau des symptômes de 6 mois par rapport à ceux qui sont pas traités. Alors, d'un autre côté, je suis en train de vous dire qu'on donne un médicament à des gens et qu'ils continuent à s'aggraver. Vous voyez bien que on leur donne le médicament ici et ils continuent à s'aggraver. Mais ça aggrave moins vite. Mais ça veut dire quand même qu'on n'a pas bloqué les lésions et qu'en fortiori, on n'a pas récupéré. Donc ce sont des gens qui sont malades, on va leur donner un médicament qui est quand même lourd, qui coûte cher, qui n'est pas anodin, d'accord, qui ne va pas les empêcher de s'aggraver, qui ne va pas stabiliser, qui ne va pas les faire revenir en arrière, mais qui vont les faire s'aggraver moins vite que s'ils ne prenaient pas les médicaments. Il y a quelques effets secondaires, et l'autre aussi, c'est la même chose, ils ont tous le même effet. Il y a quelques effets secondaires qui ne sont pas négligeables, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, ça peut donner des œdèmes ou peut-être des petites hémorragies cérébrales, des choses comme ça qui ne sont pas négligeables et qui sont plus fréquentes quand les gens sont traités. Très bien. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes à l'Agence européenne ? Quels sont ceux qui sont pour qu'on autorise ce médicament ? Levez le doigt.
Grande prudence dans la salle.
Personne, un doigt levé.
Moi, je lève la main.
Deux,
aussi.
Trois. On lève la main. 4, 5. Un petit effort.
Un gain en 6. Qualité de vie, clair, hein, c'est ça dont
7.
On parle. Hein.
Quels sont ceux qui sont contre et qui disent qu'il ne faut pas traiter ? 1, 2. Voilà. Ben, c'est intéressant. Vous êtes dans la ligne de l'Agence européenne, puisque la ligne de l'Agence européenne, a dit qu'il ne fallait pas traiter. Mais quelques chercheurs dont je fais partie, je crois que oui, ont écrit dans Le Monde pour dire qu'attention, le train, on est sur le quai de la gare et le train est en train de passer. L'Amérique est dans le train, la Chine est dans le train, l'Angleterre est dans le train, le Japon est dans le train, tous les pays sont dans le train, sauf l'Europe qui est là et qui a décidé de ne pas y aller. Alors, je pense que c'est grave. Moi, personnellement, je pense que c'est grave. Parce que, d'abord, c'est au patient de décider. C'est au patient de décider. On lui explique, comme je vous l'explique, il y en a 7 ou 8 qui étaient pour, une dizaine qui sont contre. Et bien voilà, c'est up to you. On vous donne les éléments et vous décidez. Comme pour un cancer, du pancréas. On va vous proposer un traitement, mais ça va vous... Mais vous aurez de la chimiothérapie, c'est pas agréable. Vous décidez, premièrement. Et deuxièmement, ce que je trouve grave, c'est que il est évident qu'on va apprendre plein de choses en étudiant ces médicaments. On va apprendre à mieux poser les indications, à éviter les situations qui vont exposer à des risques. On va contrôler, on va se limiter, on va laisser à des centres experts la possibilité d'initier ces médicaments. Enfin, ce soit très, très contrôlé. Mais dans notre idée, si vous voulez, il fallait nous donner la chance de mieux connaître ces médicaments pour pouvoir en apprécier les intérêts et éventuellement les inconvénients. Là, avec cette décision, mon cher Foucault, on est en dehors de la partie. C'est une partie qui se joue sans nous, à moins que l'Europe revienne sur sa décision. Il y a un recours qui a été proposer. Voilà, voilà donc ce que je voulais vous présenter. Je crois que c'est la dernière diapositive. Voilà, l'avenir, c'est peut-être ça. Création de centres de prévention du déclin cognitif, rechercher des facteurs de risque, vous avez compris, doser les biomarqueurs sanguins pour repérer les sujets à risque. Attention à la communication du risque. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué parce que ce qu'on va mettre en évidence, c'est pas la maladie, ce sont des lésions. Et comme je vous l'ai montré, la lésion n'a pas de lien formel avec la maladie. Sélection des sujets à très haut risque d'évolution vers l'AMA. Proposition de cure de disease modifier, de ces médicaments disease modifier, lorsque ceux-ci auront démontré qu'ils retardent l'entrée dans la maladie sans effet secondaire important. Voilà un peu dans l'avenir, si vous voulez, que je pense qui sera le nôtre. Et c'est dans tous les cas celui dans lequel nous nous inscrivons, notamment à la Salpêtrière. On veut être un peu les moteurs de cette approche. Et on va construire un bâtiment de recherche clinique pour justement faire avancer cette connaissance. Je vous remercie de votre attention.
Professeur Dubois, l'un des arguments de la prudence, on va dire, excessive, que vous jugez excessive, est le risque de complications. L'un des contre-arguments pourrait être, on choisit mieux les personnes à qui on le prescrit pour éviter les personnes qui risquent d'avoir ces complications. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut faire bouger les décisions d'autorisation de mise sur le marché?
Merci de cette remarque. C'est effectivement vers cela que l'on va. C'est une meilleure définition des sujets éligibles, en évitant bien sûr les anticoagulants, en évitant les sujets trop âgés, en évitant les sujets qui ont une apolipoprotéine E de type 4, d'un certain nombre d'éléments dont on sait que ce sont des facteurs qui augmentent le risque d'avoir ces complications. Vous avez absolument raison.
S'il y a une ou deux questions, on peut peut-être aussi les prendre, sinon vous aurez également le temps de continuer. Oui, deux questions.
Il a la voix qui porte.
Alors, oui, allez-y, si vous voulez.
Alors, en fait, non, c'est juste une remarque. Si par hasard, on avait formulé les choses autrement sur ces essais thérapeutiques et qu'on avait, par exemple, cherché à savoir, c'est une autre question, est-ce que l'amyloïdogénèse est à l'origine de la maladie et la cause de l'Alzheimer? Est-ce qu'en fait, ces trois études ne font pas la preuve que non? C'est-à-dire, en fait, on enlève toutes les plaques amyloïdes et en contrepartie, on n'a pas l'effet clinique escompté, la pathologie continue d'évoluer. Est-ce qu'on ne peut pas aussi le voir sous cet angle-là, bien que ça n'a pas été dessiné dans ce but?
Est-ce que tout le monde a compris la question? Si, c'est-à-dire que si l'hypothèse de travail de dire la maladie d'Alzheimer est due aux lésions amyloïdes, ce qui est l'hypothèse qui sous-tend la recherche sur ces médicaments anti-amyloïdes. Si cette hypothèse est bonne, si vous supprimez toutes les lésions, vous devez supprimer les symptômes. Et le fait que les symptômes n'aient pas été améliorés de façon importante peut-être invalide l'hypothèse. Et l'idée de Foucault est de dire peut-être qu'avant de travailler sur un médicament, commencez à bien connaître le pourquoi du comment, et à partir de là, développer des médicaments plus adaptés. Alors, la réponse que je vais me permettre de lui faire, et merci pour la question, l'importance ne nous a pas échappé, bien sûr, c'est que, et c'est ça ma réponse, mais malheureusement, je ne suis pas certain d'être dans la vérité, mais c'est que qui a vu, tu l'as fait, mais qui a vu le cerveau d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer est convaincu qu'il y a de telles déconnexions, disconnexions neuronales, pertes neuronales, tout est totalement désorganisé et qu'il est complètement illusoire d'espérer que le fait d'enlever les lésions amyloïdes va permettre de rétablir tout ce dispositif de connexion qui est totalement rompu. Oui, exactement. Oui, mais c'est... Il y a la perte neuronale et il y a les disconnexions qui sont liées aux pertes neuronales.
Pourquoi, si l'APP intervient dans les mécanismes d'apoptose,
Vous avez une perte neuronale de 20% qui a été mesurée et évaluée, notamment par les travaux de Charles Wickert, mais qui est de l'ordre de 20%, premièrement. Deuxièmement, vous avez des déconnexions. Il faut avoir vu ces cerveaux au microscope. Vous avez une déconnexion majeure. Donc c'est totalement illusoire d'espérer récupérer ces connexions-là. C'est perdu. Non, mais c'est ça la réponse, je vous assure. C'est ça la réponse.
Donc la question est aussi à quel stade et à quel moment on intervient. Plus on intervient précocement, exactement, et plus vite on peut espérer qu'il n'y a pas déjà d'autres traces un peu plus loin dans le cerveau qui peuvent expliquer...
C'est l'élément de la réponse, c'est que dans ce contexte-là, dans cette hypothèse-là, d'une sorte de désorganisation majeure, plus on sera précoce, plus on peut espérer être efficace. Et d'ailleurs, il faut savoir que les lésions dont j'ai parlé, notamment en PET scan, il a été montré avec ces systèmes de visualisation des lésions que les lésions sont déjà au maximum dès les premiers symptômes. C'est-à-dire que les dégâts cérébraux sont majeurs dès les premiers symptômes. Donc c'est ça les éléments de réponse. C'est que je retournerai l'argument. Je vous dirais justement, le fait qu'on ait quand même un effet sur les symptômes valide justement l'hypothèse. Parce que si les lésions amyloïdes n'avaient rien à voir dans la genèse des symptômes, le fait de nettoyer les lésions ne devrait même pas améliorer un peu.
N'aurait pas d'effet. Voilà. Merci beaucoup, professeur Dubois. Merci à vous pour vos questions.